Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver comme tous les lundis, hein, 19h-20h30. Alors on va être aussi bavard que les semaines précédentes, hein, puisqu'on recevra à partir de 19h30 l'association Sport et Loisirs Détente de Fontenay-sous-Bois. Ils viendront nous parler de leurs différentes actions, et notamment en matière de foot. Et puis on va commencer cette émission en parlant MMA, c'est la rubrique mensuelle habituelle. Cette fois-ci on l'a avancé d'une petite semaine, parce que la semaine prochaine c'est un lundi de repos. Donc je vais saluer mes amis Benoît et Souleymane. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Ça va bien ? Pleine forme ?
Voilà. Super. Hein.
Et puis je vais aussi saluer ceux qui m'accompagnent dans cette émission. D'abord Vanessa. Bonsoir Vanessa. Ça va
Bonsoir
bien ? Pleine forme ?
Très bien.
T'as passé
très
un bon week-end entre le tennis et le patinage ?
Ah oui, un excellent week-end.
Très bien. Et puis il nous fera le journal Omnisport. Il nous fera aussi découvrir le parcours du prochain Tour de France. C'est Alexandre. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous.
Ouais, il y a une belle actu sportive encore.
Belle actu sportive avec Léon Marchand aussi. Voilà. On en parlera. Très bien. On en parlera tout à l'heure.
Allez, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, avec donc la rubrique mensuelle MMA. Alors j'ai envie de vous dire, même question, que s'est-il passé ce mois-ci ?
Bah écoute, plutôt pas ce mois-ci, mais plutôt le mois dernier, ouais. Du coup.
Depuis ta dernière venue, quoi.
Exactement, on a eu de la chance, parce qu'on avait déjà été régalé le mois dernier, et là, encore une fois, on a été régalé le 26 octobre avec une très belle carte, c'était l'UFC 308. Et du coup, le main event, c'était Ilia Topura contre Max Holloway. Mais avant ça, il y a eu d'énormes combats, des gros combats même. Je pense que Souleymane est d'accord avec moi.
Franchement, je suis d'accord. Oui, évidemment, c'était une grosse soirée. Ça dépend pour quel fan, évidemment.
C'est ça, bien sûr.
On a eu de sacrées surprises.
Et donc, du coup, pour commencer, le premier combat, on a eu un très bel affrontement. On a eu Sharapoudjin Magomedov contre Armen. Un Arménien, et du coup ça a été un très beau combat parce qu'on a eu surtout une belle démonstration de striking. Ce qu'on appelle striking, c'est du coup tous les combats pieds-poings debout faits par les adversaires, par les combattants pardon, et donc du coup ça s'est soldé par une très très belle victoire au deuxième round par Magomedov. C'est un très très bon prospect pour l'UFC, on parle beaucoup de lui, on le surnomme comme étant le pirate, et il a illustré sa victoire avec un très beau KO, un double coup de coude retourné qui a mis son KO, qui a mis son adversaire KO au deuxième round, donc c'était magnifique. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Souleymane, de ce combat.
Franchement, pour l'avoir vécu sur le moment, c'est l'un des gestes techniques qui a été le mieux réalisé de la soirée, et surtout c'est un geste technique dans le monde du MMA qui est exceptionnel, puisque être en capacité de mettre un premier coup de coude retourné, c'est déjà une grosse prestation, et en mettre un autre tout de suite à la suite, c'est monstrueux, exceptionnel.
Et ces combats, c'était où?
Là, c'était à Dubaï, donc on a eu de la chance. D'habitude, il faut qu'on se lève à 4h du matin pour voir les combats. Je te cache pas que ça nous fatigue énormément.
Ah bon,
mais là, du coup, on a eu de la chance, c'était quasiment heure française.
Tu travailles pour la radio, hein.
Ah, clairement. Donc c'était plutôt agréable. C'était plutôt agréable.
Ouais.
En autre très beau combat de la soirée, un combat très attendu, c'était le combat du coup qui opposait Ankalaev contre
Oui, Ankalaev, tu vas retrouver le nom rapidement.
Ouais, c'est ça, contre Alex Kandar Rakic. Ça a été un combat très serré, ça s'est décidé à la décision. C'était un combat intéressant, puisque actuellement, le vainqueur de ce combat est censé affronter Alex Pereira, le champion actuellement chez les poids moyens. Donc du coup, c'est les poids lourds légers, donc du coup, c'était un combat avec beaucoup, beaucoup d'enjeux. Tout le monde attendait Ankalaev, puisqu'Ankalaev est considéré comme étant, on va dire, un peu la bête noire face à Alex Pereira. Alex Pereira qui, pour l'instant, domine la catégorie totalement. Et pour le coup, Ankalaev, comme tout le monde se l'attendait, a réussi son combat. Il a été décidé gagnant à la décision. Il a beaucoup dominé son adversaire. Il a fait très peu d'amener au sol. On l'attendait surtout au sol, à la lutte. Mais au final, il a utilisé son striking qu'il a géré totalement. Et du coup, ça a été une belle victoire à la décision. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, ça a été quasiment un sans faute, même si le combat n'était pas en soi spectaculaire.
Alors pour ma part, justement, j'aimerais rebondir sur le pas spectaculaire. Ankalaev, il est très attendu puisque c'est quelqu'un qui, pour garder l'expression française, à la bouche, comme on peut dire. Donc c'est quelqu'un qui est très 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 attendu, surtout sur sa lutte, et qui est vu comme ayant un gros potentiel ou comme étant la personne qui parle pour ne rien faire. Donc moi je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur sur ce combat malgré sa victoire. Donc j'attends de voir ce qu'il va donner sur ses futurs combats, surtout si son prochain adversaire, est bien Alex Pereira.
Et nos Français ?
Est-ce qu'il y a eu des alors sur cette carte-là, il n'y a pas eu de Français, mais on va conclure sur quelque chose. Mais t'inquiète, ça arrive. Pour l'avant-dernier combat de cette soirée du UFC, on a eu l'un des combats les plus attendus. C'était Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev. C'était clairement le retour du Dagestanais Khamzat, qui était attendu par tout le monde. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas combattu, qu'il avait été absent pour soit où il manquait le poids, ou il était tout simplement malade. Là, il a fait son grand retour puisqu'il s'est imposé au premier round face à Robert Whittaker, qui est quand même l'un des gros combattants de la catégorie des poids moyens. Donc c'était un combat qui a été super intéressant et assez spectaculaire, puisque non seulement en plus d'avoir gagné au premier round, il a gagné par soumission et il a un peu abîmé Robert Whittaker, on va dire
un peu c'est beaucoup. Gentil, voilà. Khamzat Chimaev est connu pour sa lutte et ses soumissions, et pour Robert Whittaker, malheureusement, ça n'a pas raté. Il lui a complètement déchaussé les dents du bas et potentiellement brisé la mâchoire.
Ah ouais ?
On est sur du lourd. On est sur quelqu'un de très dangereux.
Et on a des nouvelles quand même
Les seules nouvelles qu'on a pu avoir, c'est une photo des dents de Robert Whittaker. C'est pas joli à voir. Si vous êtes sensible, après. Ne alors, regardez
je,
pas.
Ouais, ouais. Alors justement, tous ceux qui un peu se plaignent c'est que, de la
en
violence.
En fait, ça a été.
Ça va pas les arranger, quoi.
Ben, c'est vrai que ça les arrange pas, mais c'est quand même l'une des rares fois où on a une telle blessure. C'est très très rare. Mais après, je pense que c'est dû à la prise de soumission, qui est un étranglement qui d'habitude se fait sur le cou. Là, il a été effectué sur la mâchoire et Du coup, ça a conduit au déchaussement des dents de Robert Whittaker, sauf qu'il s'est exprimé, il a quand même dit qu'il avait déjà les dents déjà abîmées, et du coup, ça, il a choisi de quand même faire le combat, donc forcément, là, ça n'a pas loupé, mais on espère qu'il ira mieux. Il lui-même a affirmé qu'il va reprendre les combats, donc on espère que ça ira pour le mieux pour lui.
D'accord.
Voilà, quoi. Et pour le main event, excuse-moi, Souleymane, alors parle-nous de ce main event.
Comment vous dire que j'ai dormi le poing serré après ce main event qui opposait donc Ilia Topuria, combattant hispano-géorgien, à Max Holloway, qui est, si je dis pas de bêtises, haïtien.
Non, pas du tout. Tahitien, tu veux dire?
Tahitien.
Ouais, non, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. On n'est plus très sûr.
Ilia Topuria est actuellement champion de sa catégorie. Il est sur une série de victoires. Donc, on est sur 16 victoires sans défaite. Max Holloway, lui, avait 6 défaites, si je ne dis pas de bêtises, avant le combat.
Ouais, excuse-moi, il est hawaïen. Voilà.
Hawaïen, excuse-moi.
pas les mêmes nationalités.
Exactement.
Pour plus de 20 victoires. Donc, on avait le jeune prodige face à
la légende
expérimentée qu'est Max Holloway. Pour ma part, j'étais pour Max Holloway.
On était pour Max Holloway.
Malheureusement, la décision n'a pas été en notre faveur. Max Holloway a perdu au troisième round par un KO, le premier de sa carrière, après plus de 25 combats au total. C'est donc historique, puisque Max Holloway est connu pour être le menton d'acier. C'est son surnom. Ouais. Il est connu pour avoir une très bonne résistance au coup, et là, l'avoir vu se faire mettre KO au troisième round, c'était dur. Vraiment, c'était très dur, très très compliqué à vivre. Maintenant, Ilia Topuria est un très bon combattant, excellent combattant. Il a donc un striking, comme on l'a dit, une boxe excellente qui a surpassé Max Holloway, et ça nous a offert un spectacle et, pour ma part, une mauvaise nuit.
Ouais. Par ailleurs, pour la petite anecdote, puisqu'on est entouré de footeux parmi nous, il faut savoir qu'Ilia Topuria est un grand fan du Real de Madrid. Et cette soirée du 26, il faut savoir qu'il avait été accompagné par Sergio Ramos. Il a été accompagné par Sergio Ramos lors du combat. Et il avait dit que ce combat serait un classico, le fameux classico Real contre Barcelone. Et lors de la même soirée, Barcelone a vaincu le Real de Madrid. Et ouais, on lui a dit, bien, juste après sa victoire dans le ring. Donc on a sa réaction de Ilia Tupouaré qui était un peu dégoûté après avoir reçu sa ceinture, d'entendre que le Real de Madrid a perdu la même soirée. Donc ça a été un gros événement et franchement nous on a été vraiment ravis, etc. C'était pas le seul gros événement d'ailleurs, il y avait quand même le retour de Francis Ngannou, donc tu me parlais de ce qu'on avait un français,
c'est là
donc
que je voulais en venir.
Voilà, donc Francis Ngannou bien évidemment c'est le retour du roi, qui clairement a fait son retour au MMA après quand même sa grosse défaite face à Anthony Joshua en boxe anglaise. Il est revenu, on l'attendait.
Même boxe que Jean-Marc Mormet, que tu connais.
Exactement. pour les connaisseurs, bien évidemment. Et donc, du coup, il faisait son grand retour. On l'attendait un peu au tournoi parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux. C'est que d'un côté, et on se disait, est-ce qu'on allait retrouver le Francis Ngannou d'avant, puisqu'il a quand même quitté l'UFC dans des conditions un peu difficiles parce qu'il était en clash avec l'UFC. Il a réussi quand même à négocier de très beaux contrats avec le PFL. Et le PFL lui a autorisé, du coup, d'aller faire quelques combats en boxe anglaise. Et comme d'habitude, lorsqu'un combattant de MMA décide de changer de style de sport de combat, donc il y a toujours des débats autour de ça, et ben ça n'a pas loupé également pour Francis Ngannou. Et du coup, ce combat, c'était vraiment le combat où il ne fallait pas se louper. Et concrètement, ben Francis Ngannou a totalement bien géré son retour, puisqu'il s'est imposé au premier round totalement par KO, en fait. C'est-à-dire qu'il a réussi à totalement dominer le Brésilien, son adversaire le Brésilien, que je n'ai plus le nom, vous m'excuserez.
Renan Ferreira, merci.
Il l'a dominé totalement, le combat très rapidement, il l'a amené au sol, il a réussi à le coincer contre la cage. Et là ensuite, Ngannou a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire dominer son adversaire. Il a réussi à lui assigner plusieurs coups de poing à la tête, et ça n'a pas lampé au vu de sa puissance, et ça a mis KO son adversaire. Et donc du coup, Francis Ngannou a gagné, est devenu champion justement des poids lourds à ce moment-là. Donc franchement, très très bon retour. Ça nous fait plaisir, nous les Français, puisque c'est quand même un combattant qui s'est formé en France. Donc encore une fois, ça montre à quel point le MMA français a de bons jours devant lui, et à quel point il produit des champions, tout simplement.
Donc la boxe anglaise, c'est fini pour lui. C'était juste un petit passage, ou alors je ne pense pas
que ce soit. Je sais pas s'il a dit que c'était fini, mais apparemment il voit sa fin de carrière. Il voit sa fin de carrière en sport de combat. Il pense prendre sa retraite à 42 ans. Ouais. Donc là, il est déjà à 39, si je dis pas de bêtises. Donc je pense qu'il veut refaire des combats en anglais. D'ailleurs, il a même parlé qu'il voudrait une revanche face à Fury. Donc moi je pense que ce ne sera pas ses derniers combats en anglaise, mais ça va vraiment dépendre de ses performances en MMA. Il faut savoir que les combattants sont sous contrat, donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
C'est le cas de
Ngannou, quand même a un contrat qui est plutôt bien aménagé. C'est l'un des seuls combattants qui peut se permettre de changer, d'aller en boxe anglaise, etc. Mais il faut qu'il tienne ses engagements vis-à-vis du MMA. Et là, il a quand même réussi son premier engagement, c'est qu'il a réussi, il a gagné. Donc là, pour l'instant, je pense que pour lui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense qu'il est confiant, et même moi, je suis confiant sur l'avenir de Francis Ngannou. J'espère en tout cas qu'il aura une belle fin de carrière.
Mmh. Sinon, donc, dans les prochaines semaines, là, novembre-décembre, il y a des combats et des affiches importantes.
Normalement, on était censé avoir à cette UFC, avoir une belle affiche, on était censé avoir le retour de Cyril Gane.
Ah oui.
Ouais.
Bah oui.
Pour.
Qui joue très bien au foot d'ailleurs.
Bah lui, il sait tout faire de toute manière. Il a fait également du basket. Donc le football, ça m'étonne pas. Donc c'est vraiment un homme qui peut tout faire. Je pense qu'il sera présent dans les prochaines cartes du UFC. Et normalement, ces combats sont censés lui permettre l'occasion d'avoir un combat pour la ceinture.
D'accord.
Donc s'il arrive à performer comme il se doit, il aura peut-être une chance d'avoir un combat pour la ceinture prochainement.
Oui. Alexandre, t'as un commentaire sur tout ça de ce mois-ci?
Pas forcément, mais concernant Cyril Gane, je le connais. Donc,
oui, justement, c'est pour ça que... Ouais,
donc j'ai hâte de voir son retour. Tout simplement.
Après, on parle beaucoup d'actualité un peu internationale, mais on a également des événements MMA français qui arrivent. On a l'Hexagone 21 qui arrive du coup le samedi 23 novembre. Du coup, c'est très prochainement. On aura l'occasion de revoir des combattants, notamment les combattants de monsieur Mathieu Nicour, qui était là le mois dernier. Et justement, ce sera l'occasion de voir l'un de ses combattants, qui est Christopher Odena, qu'on a eu l'occasion, Souleymane et moi, d'interviewer à plusieurs reprises. Il avait une belle victoire par KO lors du dernier hexagone à la Villette.
Yes, au Zénith.
Au Zénith de la Villette. Donc ça, c'était une très belle performance. Et là, on espère le retrouver une victoire à nouveau pour Christopher. Donc on est assez content. Et en plus, encore une fois, c'est des combattants de match unique court. C'est un coach qu'on apprécie énormément et qui, clairement, c'est une des pointures du MMA en France. Donc ça fait plaisir de voir que ces combattants sont toujours autant actifs. Et c'est... Non, moi, personnellement, je trouve que le MMA en ce moment en France, ça prend, c'est pas juste que ça prend de l'ampleur, c'est clairement aujourd'hui on peut considérer que une grande discipline française aujourd'hui, je pense, au vu du nombre de combattants qu'on a à l'étranger, qu'on a partout dans le monde et qui sont performants, qui performent au haut niveau mondial. Je pense qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Souleymane.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, en termes de combattants français, on a de grosses pépites qui sont en train d'émerger. J'aimerais prendre l'exemple de Nassourdine Imavov. Mm-hmm. Qui risque de combattre l'un des anciens champions de sa catégorie, qui s'appelle Israël Adesanya, qui est un combattant très très connu, fortement respecté, qui pour certains, je pense, est déjà au statut de légende, mm-hmm. vraiment. Donc, on a de très belles pépites qui sont en train de se former, qui sont en train de grandir. On est en train de voir de futurs champions évoluer, je l'espère.
Oui, bon, ben voilà. Ouais. Ben, c'est tout pour ce mois-ci, c'est bon ?
Je pense que c'est tout pour ce mois-ci.
Ouais.
C'est bon, tout pour ce mois-ci.
On retrouvera le mois prochain, donc ça sera le deuxième lundi, donc le 9 décembre. D'accord ?
Merci.
Vous restez avec nous parce qu'on va enchaîner avec le journal des sports, le journal Omnisport, et on va naturellement commencer par le tennis, Alexandre.
Forcément, Philippe, donc en ce journal des sports avec le tennis, c'est la finale du tournoi de Bercy perdu par Hugo Humbert. C'est l'Allemand Alexander Zverev qui s'imposait logiquement de 7 à 0, 6-2, 6-2.
Il n'y a pas eu match, hein ?
Non, il n'y a pas eu match, mais on peut quand même féliciter son parcours.
Oui, bien sûr.
C'est toujours positif d'avoir des Français qui vont aussi loin. On passe en Formule 1.
Justement, Vanessa, elle était après le match, prendre donc la réaction d'un supporter qui avait assisté à la défaite donc de Hugo Humbert.
On est ici en direct de Bercy. C'est le match, le dernier match cette finale entre Hugo Humbert et Alexander Zverev qui vient de se terminer avec la défaite du Français. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match, vous qui avez vécu cette dernière finale à Bercy ?
Bah écoutez, honnêtement, la finale, elle m'a un peu déçu dans le sens où le Français, il a été en difficulté sur tout le match. Après, c'est vrai que Zverev était favori parce que c'est le troisième joueur mondial. Mais j'aurais quand même préféré voir un match un peu plus serré. C'est vrai que là, la finale, elle a duré 1h20. Ça a été quand même une finale à sens unique, mais après, c'était quand même un bon moment. Et puis, c'était sa première finale dans un tournoi important. Donc voilà, il s'est battu quand même jusqu'au bout. Mais c'est vrai que l'Allemand était vraiment, vraiment, vraiment au-dessus. Donc c'était dommage qu'il n'y ait pas le match un peu plus serré quand même.
C'est vrai que c'était assez expéditif, mais il y a quand même eu cette victoire contre Alcaraz et contre d'autres joueurs. Vous, c'est quand même déjà une très belle victoire d'être arrivé en finale. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un Français en finale ici au Master 1000 de Paris-Bercy.
Ouais, c'est vrai qu'on critique beaucoup les joueurs de tennis français, et là, pour une fois qu'il y en a un qui est en finale, donc c'est super. Après, il a un bon niveau de jeu, il a un bon style et tout. Mais c'est vrai que cet après-midi, c'était beaucoup plus difficile contre Zverev, qui a raté pratiquement rien dans le match. Et il a battu Alcaraz aussi. Moi, quand j'ai réservé les places pour la finale, j'espérais voir Djokovic, Alcaraz ou Sinner, ou Zverev évidemment. Et là, quand j'ai vu qu'il avait battu Alcaraz, je me suis dit, j'espère que ce sera lui en finale. Et puis, ça a été le cas, mais malheureusement, la finale a été à sens unique, c'est dommage.
Et peut-être une note positive pour terminer sur ce beau Master 1000 ici, dernière fois à Paris-Bercy. Peut-être que si vous aviez l'habitude de venir, vous êtes un peu nostalgique.
Moi, c'était la première fois que j'y allais. J'ai déjà vu d'autres événements à Bercy, mais là, c'était la première fois pour le tennis. Et en plus, l'année prochaine, ça déménage à la Défense Arena. J'habite juste à côté, donc pourquoi pas éventuellement y aller l'année prochaine aussi. Il y avait une bonne ambiance. Tout le monde a essayé d'encourager Hugo, mais malheureusement, il n'a rien pu faire.
Ce sera pour une prochaine fois, peut-être l'année prochaine à la Défense Arena. Merci beaucoup, Vanessa Saksik, pour Mon Paris FM. Merci.
Voilà, effectivement, peut-être l'année prochaine à la Défense, parce qu'on l'a dit, hein, il y a beaucoup de manifestations sportives qui changent de site, qui vont à la Défense. Il y avait le Supercross Moto de Bercy il y a quelques années, maintenant c'est à la Défense. Et puis là, à la Défense Arena, simplement parce que c'est un site qui peut accueillir beaucoup plus de spectateurs, hein, c'est la raison. Donc voilà. Et puis côté français, on va rappeler que 3 Français ont gagné seulement ce tournoi. Guy Forget, Sébastien Grosjean et puis Stanga. Voilà, Stanga en 2008, Grosjean en 2001 et puis Forget en 91.
Voilà. Mais je trouve quand même un peu sévère. Hein,
de quoi
le supporter. Parce que bon, il y a de la déception, mais quand même arriver en finale contre Zverev, qui est numéro 2 mondial.
Ouais, c'était... c'est sûr. Bon, sur la finale, après, il n'y a pas de match. Hein.
Oui, bah oui, forcément. Ouais.
Mais enfin, bon.
Passons. Donc, on passe justement en Formule 1. Énorme week-end. Donc, je te disais, Philippe.
Là aussi, deux Français sur le podium.
Voilà. Pour Alpine, ça fait plaisir car justement, ces deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ont terminé sur le podium juste derrière Max Verstappen. Vraiment une grosse performance puisque Alpine remonte à la 6e place du classement des constructeurs avec 49 points. McLaren est toujours leader devant Ferrari et Red Bull.
Donc, il reste 3 Grands Prix maintenant.
Il reste 3 Grands Prix, c'est ça. En moto, on arrive bientôt à la fin de la saison puisque le Grand Prix de Malaisie hier était donc l'avant-dernier de la saison.
Oui, alors justement, Valence, qui est le dernier prix de la le dernier Grand Prix, malheureusement, a été annulé avec ce qui se passe à Valence. Alors, on va essayer de trouver apparemment un circuit de rechange. Voilà. Mais sinon, c'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison.
Justement, il a été remporté sans trop de surprise par l'Italien Francesco Bagnaia, suivi par Georges Martin et Enea Bastianini. Fabio Quartararo termine la course 6e et Juan Zarco 11e. Au classement des constructeurs, donc le podium ne bougera plus, on peut le dire. Ducati remporte donc une nouvelle fois ce championnat. Prima Pravac et Gresny Racing sont sur le podium.
Et sur les individuels, alors, ça va jouer entre qui, Martin ?
Sur les individuels, ça va vraisemblablement être Bagnaia qui va remporter. Et Martin est juste derrière.
Oui, donc ça a tiré, même pour le dernier Grand Prix. Hein.
Exactement.
Ouais.
Et en fait, c'est le classement que j'ai dit. Enea Bastianini est 3e.
D'accord.
Voilà. Le rêve continue pour Léo Marchand, j'en parlais tout à l'heure. Le nageur toulousain a enchaîné les performances exceptionnelles, notamment en décrochant le record mondial du 200 mètres 4 nage et le titre justement du meilleur nageur de la Coupe du Monde en petit bassin à Shanghai. Donc même s'il a été battu lors de sa dernière course, il a quand même remporté le classement général haut la main. Donc grosse année 2024 pour le nageur français. Ici, on parle souvent d'héritage des Jeux.
Oui, lui, franchement, c'est très bien. Et c'est pas fini parce qu'il y a les championnats du monde justement en petit bassin au mois de décembre et on peut s'attendre à ce qu'il aille encore truster les titres et puis les médailles.
Absolument. Oui. En rugby maintenant, les résultats de la 9e journée de Top 14. Nouvelle défaite malheureusement pour le Stade français en ce début de saison. Celle-ci contre le Stade Rochelet 35-18. Ouf. C'est quand même la 6e défaite de la saison.
Ça va
pour
pas
le
très
club
bien
francilien.
Au Stade français.
6 défaites en 9 matchs. Donc c'est compliqué. L'autre club d'Île-de-France, le Racing 92, a quant à lui remporté son match du week-end 33-23.
Ouais, et le Racing qui joue à Créteil, au Stade du Rochelet pour l'instant.
Oui, actuellement il joue à Créteil en effet. Donc il remporte son match justement 33-23 contre la section paloise. Au classement, le Racing est 8e et le Stade français est 13e, donc avant-dernier. Le Stade toulousain est toujours leader avec 30 points, Bordeaux-Bègles 2e avec 29 points et le Stade Rochelet 3e avec 27 points. En basket maintenant, Philippe, résultat de la 7e journée de Betclic Elite. Le Paris Basket l'a remporté au terme d'un match quand même bien abouti, 115-97 contre
Nancy. Ils ont gagné
2
fois cette semaine. Hein.
Ils ont gagné 2 fois, je vais
en
parler
après,
juste après. Ouais. Donc 115-97 contre Nancy et Nanterre a perdu après prolongation par contre contre Saint-Quentin, 102-95. Au classement, les Nanterrois sont 12e, Lyon-Villeurbanne, Paris-Saint-Quentin et Monaco tournent tous les 4 à 5 victoires et 2 défaites. Donc Cholet est solide leader avec un match en retard. Ce sera contre Dijon. Et justement, avant de passer au handball, je vous rappelle la victoire du Paris Basket en Euroleague.
Ouais, vendredi.
Vendredi, 67-65 contre Baskonia. Les Parisiens pointent à la 10e place du classement, juste devant le Real Madrid. Mm-hmm. C'est pas mal. On passe au handball justement et le PSG qui a remporté son match hier contre Montpellier 29-23. Nouvelle défaite pour Créteil malheureusement qui perd à Cesson-Rennes 26-24. Tout comme Ivry qui perd à domicile contre Chambéry 30-19. Au classement, le PSG est leader devant Nantes et Montpellier. Créteil est 15e avant-dernier donc et Ivry 16e dernier du classement. Ouais, les deux clubs du Val-de-Marne, là c'est compliqué. Je pense que Ivry, ça va être très très difficile cette année. Chez les femmes, le Paris 92 a gagné son match du week-end 26-23 contre Saint-Armand. Les Parisiennes sont actuellement 6e à égalité de points avec Nice, 4e. Brest-Bretagne est toujours leader. En volley,
maintenant et les résultats de la 7e journée de Marmara Spike League. Paris perd contre Toulouse 3-0 et stagne à la 10e place du classement. Pareil pour le Plessis Robinson qui n'y arrive pas. Hein. Cette année, le Plessis Robinson, c'est compliqué. Ouais. Toujours dernier et encore plus avec sa défaite justement contre 7, 3-2. Tourcoing, Cannes et Montpellier forment le podium. Chez les femmes, un peu de sourire puisque Levallois-Paris remporte son match du week-end 3-1 contre Quimper. Début de saison correct pour le club des Hauts-de-Seine puisqu'il pointe à la 4e place à 7 petits points du leader Nantes. Donc c'est pas mal. Et on termine ce journal des sports, donc je fais une petite passe décisive à Vanessa, voilà, qui va nous donner donc, les résultats du Grand Prix France de patinage artistique à Angers.
Donc, c'est ça, donc très bon week-end pour nos Français avec la victoire d'Adam Siaoimfa chez les messieurs et en danse sur glace, Hugues Vignal-Opareva et Geoffrey Brissot. Je vais revenir sur les performances d'Adam Siaoimfa.
Oh oui, parce que 8e au programme court et après,
donc 8e au programme court, il tombe sur le quadruple bouc piqué, sur le triple axel et en plus il rate ses pirouettes. Donc il perd énormément de points, c'est une contre performance. Il faut souligner que sa préparation cet été a été perturbée par une blessure, une entorse à la cheville avec rupture partielle du ligament. Donc un gros retard hein, puisqu'il a repris que fin août. Maintenant, ça expliquait peut-être pas tout. Dans le libre, c'est pas le meilleur libre qu'il ait fait. Il a transformé le quadruple bouc piqué en double bouc piqué. Mais une grosse remontée, hein, donc de la 8e place à la 1ère place pour l'emporter. Si on regarde le score hein, en détail, 246,68, c'est très loin de son meilleur record. Donc il y a eu cette perturbation et il faudra faire beaucoup mieux au Grand Prix de Chine fin novembre pour aller se qualifier en finale. Mais c'est quand même positif. Et puis en danse sur glace, Hugues Vignal-Opareva et Geoffrey Brissot, la relève de la danse sur glace, l'emportent face aux Italiens, les champions d'Europe et médaillés mondiaux. Très belle victoire hein, pour eux, qui sont en véritable progression. Chez les filles et chez les coupes, c'est beaucoup plus contrasté puisqu'on termine aux 3 dernières places et 2 dernières places respectivement. Et je voulais souligner la victoire d'Amber Glenn, l'américaine. La fantastique Amber Glenn qui fait 2 triples axel, un dans le programme court, un dans le programme libre. C'est l'une des seules à l'oser et elle rejoint le club très fermé des 20 femmes qui l'ont réussi depuis Midori Itō en 92. Donc fantastique performance cette américaine.
D'accord, voilà. Tiens. Et pour faire le lien entre le tennis et le patinage, comme Bercy a été rendue, bah, la patinoire de Bercy, elle va pouvoir être utilisée. Hein, parce que je sais que elle était temporairement suspendue pendant le tournoi de Bercy, en tennis, qui servait de cours annexe.
Ah oui, voilà. Oui. Ça, c'est chaque année de façon. Ouais, et après, mais sinon, toute l'année, elle fonctionne indépendamment.
Mais là, maintenant, toujours... ça y est, l'année prochaine, fin octobre, il n'y aura plus de problème. Elle pourra continuer à fonctionner.
Voilà.
C'est pour la petite histoire.
Bah, voilà. Merci beaucoup, Philippe.
Bah, de rien. Allez, la pause musicale, et ensuite, on prend la direction et du Tour de France et puis on ira donc également voir du côté de l'association Sport et Loisirs Détente de Fontenay-sous-Bois.
Thank you.
Voilà, bah, cette émission, vous pourrez naturellement la retrouver en podcast. Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais c'est tellement évident chaque semaine qu'on retrouvera notre ami Stéphane Dezenclos à 20h10 hein, pour le Point Foot. Tu voulais apporter un tout petit rectificatif, concernant le journal Omnisport. Il faut être très complet. Hein, donc
oui,
c'est
oui,
pour
oui
ça.
C'est vrai. Non, ouais. C'est concernant le classement MotoGP. Ouais. C'est vrai que c'est plutôt Jorge Martin qui va vraisemblablement l'emporter.
Et c'est serré quand même.
C'est serré. Il y a 24 points de différence avec Francesco Bagnaia.
Mais comme on dit en politique, il est en ballotage favorable.
Il est en ballotage favorable, d'autant plus que le prochain Grand Prix, justement, sera à Barcelone.
Ah d'accord, ça y est, c'est fait. Donc c'est Barcelone qui va se substituer à Valence.
Voilà.
D'accord.
C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette.
D'accord, bah, c'est très bien. Bon, bah, écoute, on va rester sur les deux roues. Cette fois-ci, mais on va enlever le moteur, parce qu'il y avait le Ballon d'Or donc lundi soir, et puis mardi, il y avait un deuxième grand événement, donc c'était au Palais des Congrès, à la Porte de Maillot, la présentation de ce qui sera le feuilleton de l'été, puis l'événement sportif de l'année 2025, les années impaires, c'est le Tour de France. Ce Tour de France, comme on le disait, qui va être typiquement bien français. Pas une seule étape va arriver à l'étranger.
Français. 112e Tour de France, hein, Philippe, c'est beaucoup. Départ à Lille le 5 juillet. Oui. Arrivé à Paris le 27 juillet, au total 3320 km seront parcourus, 21 étapes en tout. Donc on commencera donc dans les Hauts-de-France avec Boulogne-sur-Mer, Valenciennes ou encore Dunkerque, puis on descend
Donc ça, c'est trois premières étapes qui probablement seront pour les routiers sprinters. Hein. Voilà.
C'est ça, ensuite on descendra vers l'ouest avec, et vers la Normandie en passant par Rouen et Caen.
Alors justement, Rouen-Caen, où on rendra un hommage à un immense champion, c'est Jacques Anquetil du côté de Rouen.
Ensuite, on ira en Bretagne, la Bretagne.
Alors là, deux champions vont être honorés. Louison Babet, hein, qui a vécu, je crois, à Fontenay-sous-Bois, et naturellement Bernard Hinault. Hein.
Donc Bretagne et notamment Saint-Malo. Puis on descendra petit à petit vers Laval, Châteauroux, pour se retrouver à Toulouse.
Oui.
J'ai pas fait le étape par étape, étape
oui,
par étape.
Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la première partie... logiquement, ça devrait être pour les routiers sprinters, même s'il y aura un contre-la-montre à Caen qui va favoriser les gros rouleurs. Et dès qu'on va dépasser Châteauroux, donc le 13 juillet, dès qu'on va arriver le 14 juillet, là, c'est un deuxième Tour de France qui commence, ce sont les grimpeurs, puisqu'on sera, je crois, au Puy de Sancy, près de Clermont-Ferrand.
C'est ça, absolument. Donc, on passera 14 juillet. On passera aussi vers Châteauroux. Donc
Toulouse, Châteauroux, ça sera avant.
Entrer dans les Pyrénées, passer par Carcassonne, Montpellier, Valence. Ensuite, on va remonter vers Courchevel, La Plagne, Pontarlier. Et enfin, on terminera donc aux Champs-Élysées à Paris, comme d'habitude.
Le 27 juillet. Enfin, presque comme d'habitude, parce que c'était à Nice cette année pour cause des Jeux Olympiques. Mais justement, quand on va arriver quand même dans les Pyrénées, il y aura quand même pas mal d'altitude, donc d'arrivées en altitude, puisqu'il y aura 5 arrivées en altitude. Donc, j'ai dit au Puy de Sancy, qui est dans le Massif central. Otacam, Luchon, Superbannière, ça sera les deux grosses étapes pyrénéennes. Le Mont Chauve, le Mont Ventoux, au pied, sur Avignon, là-bas, dans le Vaucluse. Et ensuite, Courchevel, le col de la Lauze, la Plagne, qui sera probablement l'étape la plus difficile du Tour de France. Et puis, un contre-la-montre, ne l'oublions pas aussi, dans les Pyrénées, à Péragude. Et puis, tu parlais de l'arrivée sur Paris. Bah, ça sera un anniversaire, ça fera 50 ans que le Tour de France arrive... à Paris, puisque la première arrivée, c'était 1975.
Très bien. Donc, les favoris, comme d'habitude, on va retrouver Tadej Pogacar.
On pense,
vainqueur des trois, vainqueur de trois des cinq dernières éditions.
C'est pas les trois dernières.
De trois des 2000, cinq dernières éditions.
20, et 2021 et 2024.
C'est ça, absolument. Ouais. Et il y a aussi Jonas Vingegaard.
Vingegaard, comme on veut pour les Danois.
Je suis pas néerlandais, je suis désolé.
Il a gagné. Non, il est Danois.
Il est Danois.
Ah oui.
Ah, ok. Lui, vainqueur des deux autres, justement. On aura le droit à une belle opposition.
Ouais, 2022-2023, hein, Vingegaard, il a gagné le tour.
C'est ça. Ensuite, pour les femmes.
Il ne faut pas oublier, parce que il y a une tradition maintenant, c'est que depuis deux ans, il y a le Tour de France féminin qui commence, et il commence le week-end où s'achève le Tour de France.
Exactement.
C'est une façon d'avoir un petit peu une quatrième semaine. Donc. Et là, ça partira de Bretagne, de Vannes.
De Vannes, le 26 juillet, arrivé à Châtel le 3 août. Mmh. Donc, c'est 1165 km cette fois-ci qui seront parcourus. 9 étapes en tout. C'est une de plus que les éditions précédentes. Donc, départ en Bretagne, arrivé en Haute-Savoie. on passera par Brest, Quimper, ouais. Angers, Poitiers, Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse ou encore Chambéry.
Oui, bah là aussi le Tour de France, il sera que
français.
Que français, même pour les féminines. Merci Alexandre.
Ouais,
tu fais ton rodage pour le vélo, tu vois ?
Je fais mon rodage.
Et bravo.
Ouais, c'est amélioré.
D'habitude, je suis plus le Tour de Guadeloupe que le Tour de France.
Ah oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai, mais c'est en même temps, non ? Non, c'est en même temps ou c'est après ?
C'est plutôt en août le Tour de Guadeloupe.
D'accord, mais c'est bien, c'est bien. Ben, pour faire son apprentissage de journaliste sportif, c'est bien. Merci en tout cas, Alexandre. Tu restes avec nous parce qu'il y aura la partie foot tout à l'heure avec Stéphane où on fera un petit retour notamment.
Eh
oui, c'est le Ballon d'Or, hein, le controversé Ballon d'Or 2024. Je vais saluer donc mes invités. Je vais d'abord saluer Pascal, qui est le président de l'association. Bonsoir Pascal, ça va ?
Bonsoir, ça va très bien.
Association Sport Loisirs Détente de Fontenay-sous-Bois, je l'ai bien dit, non ?
Tout à fait.
Ouais. Et puis le populaire William. Bonsoir William, comment ça va ?
Bonsoir, tout va bien, merci.
Bon, alors parlez-moi, ça va très bien. Parlez-moi un peu de votre association. Elle a vu le jour quand ? D'abord, est-ce que c'est une association qui est liée au foot ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, parce que, bon, on va déjà quand même rappeler, vous êtes des footeux, hein, comme beaucoup.
Oui.
Combien d'années de foot, William ?
Voilà. 50 ans.
50 ans ?
Non, ah, mais. Je commence à 6 ans.
Ouais, c'est bien.
Ouais, ça. Moi, 44.
Alors, je sais qu'il va bientôt y avoir le jubilé de l'ami Jean-Pierre Pauly. Tu ne vas pas avoir ton jubilé, toi ?
Non, on l'a déjà fait.
Ouais. D'accord. Bon, tu peux un peu nous parler de ton historique, de ton passé. Tu as toujours joué à Fontenay-sous-Bois ?
Pratiquement, ouais, ouais.
Oui.
Ouais, pratiquement, ouais.
Mm-hmm. T'as joué à tous les postes, t'as été entraîneur aussi, non ?
Ouais, mais, oui, mais moi, j'ai pas fait les seniors, que les vétérans.
D'accord.
Vétérans, mm-hmm. J'ai fait les U13.
Oui.
Puis après, j'ai arrêté avec ma blessure.
D'accord. Pascal, pareil, toi aussi, tu viens du foot ?
Oui, j'ai fait du foot depuis 6 ans aussi, 40 ans.
Un peu plus, ans. Je voudrais qu'on parle un peu de ce club. À quel niveau jouer ? Parce que j'ai vu qu'il y a quand même des grands joueurs qui ont été formés, notamment un célèbre, Blaise Matuidi.
Blaise Matuidi, bien sûr.
Oui. Eh oui. Hein ?
Entre autres, il y a quand même d'autres.
Oui, vas-y.
Alors là, actuellement, il y a Cyriné Doucouré qui joue à... Il est parti à Laval.
Laval.
Il est prêté à Laval.
Oui.
Il y a Réaïan Aït-Nouri qui joue à Wolverhampton, qui est venu avec nous aussi lors des stages que nous avons organisés. Ouais. Et après d'autres...
Laurent Lapoussin.
Oui, il y a Laurent Lapoussin. Il y a...
Ouais. C'est un club formateur, Fontenay-sous-Bois, c'est sa vocation, parce qu'on doit être quand même satisfait quand on voit des joueurs arriver comme ça à ce niveau quand même.
Alors c'est un petit club, mais qui a une belle structure et il privilégie justement les jeunes. Et donc, ils sont en train de. Ils ont repris tout là et tout le club de Fontenay maintenant a un schéma de jeu à priver où chacun doit suivre selon les âges en fait. Donc, moi j'ai entraîné dès le début les petits, les poussins et tout
d'accord.
ça. Et en fait, on a un schéma de jeu déjà qui est préétabli.
D'accord. Donc, tu es entraîneur des poussins à l'heure actuelle ?
C'est fini maintenant.
C'est fini ?
Mais je me suis occupé, oui.
C'est bien, j'allais poser comme question, est-ce que c'est facile d'être entraîneur aujourd'hui ? Parce que, justement, on connaît les problèmes qu'on peut rencontrer dans les écoles ou un peu partout.
Je confirme, c'est pas si simple d'être entraîneur en
ce moment. C'est ça, c'est ça.
Maintenant, tous les parents pensent qu'ils ont un futur Mbappé ou un Neymar dans leur famille et ils vous imposent des choix qui ne sont pas les bons.
Non, puis comme il y a un manque d'autorité, un manque de hiérarchie qu'on ne respecte plus, c'est compliqué, quoi.
Ah non, on n'est plus du tout respecté.
Ah
parce que,
c'est ça.
En fait, ils imposent à leurs enfants le schéma qu'eux, ils ont envie de faire. C'est pas du tout ça.
Mais il y a combien de pratiquants à l'heure actuelle à peu près au club de foot là, dans cette rentrée, grosso modo une fourchette
750.
750. Ouais. Donc on peut considérer que c'est le sport le plus important à Fontenay-sous-Bois,
Oui, à Fontenay, oui.
Comme dans toute la France. Hein.
Oui.
Dans le monde.
Non, mais bon, il y a des régions, peut-être dans le rugby en bas, c'est peut-être plus
dans
le rugby.
Ce sera le rugby. Oui.
Hein, mais c'est vrai que, bon, voilà, on sait que Fontenay-sous-Bois, c'est quand même une ville importante pour le sport. Il y a des sections de sport de combat, il y a l'athlétisme aussi qui vont bien, mais le foot reste quand même le sport numéro un.
Oui.
Et quels sont les. Quel est le niveau de l'équipe première dans les championnats ?
Ils sont descendus, sont à R3 actuellement.
Ah, R3, oui, d'accord.
C'était monté en R1 et ils sont descendus.
Et les infrastructures, vous avez combien de stades ? Moi, j'en connais qu'un.
Il y en a deux. Il y a deux gros stades et après, il y a pas mal de
Cinq terrains.
Cinq terrains ?
Cinq terrains de foot.
Cinq terrains de foot, donc, ça veut dire que...
Bon, il y a trois synthétiques et deux pelouses.
Oui, donc on peut recevoir tout le monde. Il n'y a pas de problème d'infrastructure comme parfois on peut le rencontrer un petit peu...
On commence de l'école de foot jusqu'aux ultra-vétérans.
D'accord. Et puis, on peut venir vous rejoindre encore ou c'est fini ?
Moi, je m'occupe plus du club.
Non, mais vous êtes dans l'environnement quand même. On peut savoir que c'est possible encore.
Oui, c'est encore possible. Oui.
Donc, il y a un site internet.
Oui, ça reste encore un club familial, mm-hmm. entre guillemets, quand même. Mm-hmm. Même si c'est un petit peu plus professionnalisé.
Oui, bien sûr.
Il y a encore un esprit familial.
Et vous, donc, vous avez décidé de monter cette association. Alors d'abord, quand ? En quelle année ?
2009.
2009. Ouais. Ah oui, donc ça fait un petit moment quand même.
Oui, on en est, je crois que j'en ai 800 enfants.
Alors pourquoi ? Pourquoi d'abord ?
Sortir les enfants de leur quotidien et les emmener découvrir des paradis.
Pourquoi ? Il y avait une forte demande ? Il y avait une forte demande ou c'était quelque chose que vous aviez analysé en disant, mince, on est quand même dans un environnement, dans un contexte où...
Alors on l'a analysé en voyant autour de nous beaucoup de jeunes enfants... défavorisés entre guillemets et de pouvoir leur faire pratiquer leur sport et de les emmener dans un cadre idyllique. Nous on a choisi ce côté-là vers Saint-Tropez, mais c'est ce côté-là qui nous a plu.
Oui, ça veut dire que ils ne faisaient que du foot et ces enfants partaient jamais sur les vacances. Ils savaient.
C'est toujours pareil.
C'est toujours pareil, ça n'a pas changé.
J'en ai encore qui viennent encore l'année dernière. Il y avait un petit, il avait deux caleçons, il en avait un le soir, il l'avait avec lui. Wow. Et le lendemain, il le remettait parce qu'il avait que ça, quoi. Ouais. Le petit Sirené, là, qui est pro maintenant.
Ouais, en plus, il est pro. Alors, ça, c'est fabuleux. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien.
Lui, à la base, j'emmenais son frère. Ouais. J'ai eu un très grave accident avec son frère. J'ai eu une dissection de la carotide, j'étais hémiplégique. J'ai dit à son frère, tu viendras avec moi tous les ans, maintenant, je t'invite. Mm-hmm. Et après, quand il a grandi, il dit, je ne peux plus y aller, j'ai plus d'argent. Je dis à ton frère qu'il vienne et je l'invite. Mm-hmm. Et je l'invitais tous les ans avec moi. À la base, on était à Hyères, parce que la mairie de Fontenay avait une colonie à Hyères.
D'accord.
Mmh. Donc, je connaissais par cœur, je travaillais là-bas. Mmh. Et donc, on a commencé à aller là-bas. Et...
Donc, ça, c'était la première année
La première année 2009.
En 2009, alors, combien d'enfants vous aviez emmenés ?
50 à chaque fois.
Enfin, 50 à chaque fois. Ouais. Et comment se faisaient les choix ? Parce que.
Je prenais les U13, parce qu'on a deux clubs à Fontenay, on a l'ASVF et l'USF. Je prenais les U13 de l'ASVF et les U13 de l'USF. Donc, ils avaient 20 places chacun.
D'accord. Mais après, le choix au niveau des familles
Ça, c'est les coachs qui dirigent. Moi, je propose, voilà, je vous emmène dans un endroit. Vous avez 20 places chacun, vous emmenez les plus méritants, quoi.
Ah, d'accord, ok.
Ceux qui ont payé les licences,
d'accord,
en général.
D'accord, ok. Ouais. Bah oui, c'était déjà un critère de sélection.
C'est un remerciement aussi à la fin.
Oui, bien sûr. Donc, payer les licences. Après, le voyage, il était comment pris en charge ? Ça se passe comment ?
Ah, c'est l'association qui a des sponsors et qui trouve des sponsors. La mairie nous a aidé un peu au début. Mmh. Elle continue de nous aider encore un petit peu maintenant.
Ouais.
Mais ce que des sponsors que l'association a, et ils font des dons, ils déduisent aux impôts. Alors, et puis grâce à ça, on emmène les enfants. Mmh.
Alors, les sponsors, quand on va frapper aux portes, ça se passe comment ?
C'est,
tout de suite,
parce c'est que nos amis.
On sait que c'est difficile, hein.
C'est nos amis.
Partager nos temps.
Cette année, t'es venu cette année, t'as vu. Il y a beaucoup moins de fêtes que d'habitude. Là, j'avais quand même 80 enfants en moins, plus le match féminin en moins. Parce qu'on n'avait pas de subvention. On n'a pas eu de subvention, ça fait 3 ans, 4 ans.
Ah oui.
On n'a plus de subvention avec les matchs avec l'OM, avec les Black Stars et Valdo.
Ouais.
On n'a plus de subvention. On se débrouille tout seul.
Mmh. Alors, justement, ça a commencé en 2009. Vous avez emmené ces jeunes donc à Hyères, c'est ça ?
Au début, à Hyères, oui.
Et ensuite, ça s'est perpétué. Tous les ans, le pari, c'était de les emmener quelque part ?
Ouais, là, on a
à quelle époque ?
Le jeudi de l'Ascension.
Le jeudi de l'Ascension.
Toujours le jeudi.
Parce que le vendredi, ils vont plus à l'école maintenant. Ils vont voilà, donc. 4 jours, au début, on leur prenait 100 euros parce qu'on avait beaucoup de sponsors.
Oui, parce qu'il faut payer des bus, il faut payer. Pas l'avion quand même.
Non, on y allait en car. La mairie nous prête un car. J'ai deux chauffeurs bénévoles de la mairie qui sont des amis d'enfance, qui viennent bénévoles pour nous. Et donc, parce que s'il n'y a pas de chauffeur, on ne peut pas y aller.
Bah oui.
Parce que le car, c'est compliqué. Mm-hmm. Et depuis, on continue. Et
tous les ans, donc vous avez réussi à faire.
Ouais. Tous les ans.
Et toujours Hyères ou on a changé d'endroit ?
Non, maintenant, Hyères a été mis en vente par la mairie. J'ai eu la chance de connaître sur le terrain de la Croix-Valmer.
C'est juste à côté, c'est pas
loin. Voilà, c'est pas très loin. Le directeur du centre de vacances de Air France.
Oui, oui.
Et Eric,
Agassin, c'est ça.
Il m'a dit, viens chez nous. Et on s'est retrouvés chez lui.
C'est bien.
Fabuleux, c'est 32 bien. Hectares.
Ouais. Oui, il y a tout dans ce centre. Ouais.
Et l'année prochaine, on va dans un nouveau centre encore que j'ai rencontré, à Ramatuel, à 200 mètres de la mer.
Ouais. Chez Gérard Philippe, là-bas.
Non, on est au bout de la rue, à John Hallyday.
Ah oui, en plus.
C'est vraiment, enfin, la Lorada, au bout de la rue.
Donc, tous ces gens, ils vous favorisent l'entrée, il n'y a aucun problème. Ces jeunes, est-ce qu'ils ont conscience de la chance qu'ils ont grâce à vous ?
J'espère, parce que quand ils montent dans le bateau, qu'il y en a qui me donnent la main parce qu'ils n'ont jamais vu la mer, ils ne sont jamais montés sur le bateau, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et maintenant, je travaille encore dans les gymnases. Hein. Il y a plein de jeunes, ils viennent me dire bonjour, mais je ne me rappelle pas trop. J'en ai tellement eu que je ne me rappelle pas.
Ils viennent tous me dire. Ils se rendent compte après, en fait.
Oui, c'est après. Ouais. C'est après. Ouais.
Mmh. Sur le coup, ils sont contents, ils profitent de l'instant. Mais après, en grandissant, ils se disent finalement, on a bien profité de ce moment-là.
Parce que donc, vous arrivez là-bas. Ouais. Qu'est-ce que vous faites après? Alors, c'est quoi Quelles sont les activités qu'on peut leur proposer?
Alors nous, j'ai une activité le matin, une activité l'après-midi, une activité le soir à chaque fois. Oui. Donc c'est pour ça que je pars 3-4 jours avant pour préparer. Mmh. Ils ont karting, tout le temps on va au karting.
Ah, karting.
Ouais, ils emmènent au karting de hier, le soir.
Ah oui, karting de hier, oui. Mmh.
Je les emmène fête foraine, au point de la Fosse.
Oui, c'est bien, fête foraine.
Après, il y a des soirées, on fait une petite soirée quand il y a un anniversaire. On a la chance, ils nous prêtent une baffe et puis on met la musique. Mmh. Les gamins, ils dansent comme des fous et ils s'éclatent.
C'est leur petite boum.
Voilà, c'est leur petite boum et ils sont super heureux. Mais ce qui est impressionnant, c'est quand on leur dit « Bon, allez, on va à la plage. »« Ah bon, allez où ?»« Rendez-vous au quart demain à 9h. » Ils arrivent tous en tongs. « Non, non, mais en fait, il y a 3 km à faire à pied, il faut traverser la montagne. » « Ah bon,
bon ?» C'est pas grave, ça fait des souvenirs, c'est bien.
Ah non, non, mais il y en a qui sont pas très contents parce qu'ils n'ont pas l'habitude de marcher.
Mais c'est la vie, ça.
Hein. Ils habitent à côté de l'école et sont
chez eux. Oui, mais c'est bien,
Ah ouais. Et donc, on les fait passer dans les vignes de M. Bolloré. J'espère qu'il ne dira rien. Et depuis le début, on fait ça et ça se passe super bien. Ils sont super heureux, super contents.
Et la plupart, c'est quand même nager, parce que ça aussi, ça peut être un problème, non?
Non, parce que de toute manière, ils n'ont pas le droit d'aller à la piscine sans un éducateur.
Oui, bien sûr.
Et puis à la plage, bon, on est là, on est à côté.
Ils surveillent quand même.
Ouais, on surveille quand même.
Oui, oui. Bah, non, mais c'est une sacrée responsabilité.
Mais moi, je peux me féliciter avec tous les éducateurs que j'ai eus, c'est qu'on s'arrête dans les aires de repos des autoroutes quand même.
Faire attention aussi, oui.
J'ai jamais eu.
Qui n'en manque pas.
J'ai jamais eu un enfant perdu, bien sûr. Ouais. J'ai jamais eu un vol, j'ai jamais eu une insulte, j'ai jamais eu une bague, j'ai jamais rien eu. Je touche du bois. J'ai vraiment, ça se passe super bien.
Les comme gamins, quoi, c'est possible.
Quand ils sont en dehors de leur cadre, c'est des crèmes, c'est du caramel, c'est des anges. Franchement, franchement.
Voilà. Donc tous les ans, il y a ce voyage dans cet endroit de France, quoi. Dans le sud,
l'année prochaine, c'est Ramatuelle.
Ramatuelle.
C'est un nouveau centre qui est à 200 mètres de la plage. Y a, pareil, il y a un city dedans, il y a tout, il y a la piscine.
Et vous leur faites faire d'autres sports aussi, peut-être des initiations au golf ou,
Au début, on a amené plusieurs fois, on a amené la boxe.
Ou le tennis, ou pourquoi pas,
La boxe, on a amené la boxe, donc il y avait des initiations à la boxe. Mais là, la boxe ne peut plus venir, donc nous, on s'est foutu. Et puis les gamins, un city, ils sont heureux.
Oui, oui. Vous êtes combien d'éducateurs à les emmener?
En général, ils sont 40, nous, on est 10.
40, et vous, et vous 10. Ouais, ouais. D'accord.
Quand on est 50.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que vous avez des champions, éventuellement, que vous connaissez, on en reparlera tout à l'heure, qui vous ont aidé? Qui ont peut-être un petit peu financé
Non, on se débrouille tout seul avec nos amis, un pote qui est garagiste, un pote qui a un restaurant où on mange le samedi, un autre qui... Voilà, ils nous donnent 500 euros, 800 euros, 1000 euros, et ils déduisent, et on se débrouille comme ça. On se débrouille comme ça.
D'accord. Et alors donc, ça c'est le fait important de votre association. Et puis il y a d'autres épreuves aussi, des épreuves caritatives. Par exemple le match de foot là.
Oui, non, le match de foot, c'est arrivé, j'étais en train de manger au restaurant au Vieux-Port de Marseille avec un ami d'enfance.
Ah oui.
Et il me dit, bah William, tiens, j'ai joué avec l'OM la semaine dernière. Ah bon, ouais. Il y avait Tigana, il y avait machin, il y avait truc, même Star Club. Je dis, ah bon, tu crois qu'on peut les faire venir à Fontenay? Je dis, William, on va appeler Héro.
C'était le président d'époque.
On appelle Héro, on appelle Thierry Agnello. Bonjour monsieur, je suis là, je suis William, j'habite Fontenay. J'entraîne des anciens. Ça vous dit un petit match à Fontenay? Ah non, non, on ne peut pas.
Bah, oui.
Vous allez croire qu'on est encore champion d'Europe 93, la seule en France, il n'y en a qu'une. Non, non, vous inquiétez pas, nous c'est des amis, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de tacle. Bah, écoutez, allez-y. Bon, et j'étais avec le directeur du centre commercial, parce que ça coûte quand même cher. Et il a dit, vas-y William, je paye la moitié. Et on a réussi à ramener l'OM avec Basile Boli, avec toute l'équipe.
Ça, c'était en quelle année?
2009, la première fois.
2009, ouais. Basile Boli, 2009, mon Basilou qui est venu.
Basile est venu trois fois.
Ouais, trois fois.
Il y avait Vercruis, il y avait Gaëtan Huard, Amoureux, Didier Six. Non, non, Jean-Marc Ferrari, qui est devenu mon ami, parce que je vais chez
Jean-Marc,
à Sanary. Bernard Pardot, vous avez vu Bert. On a ramené beaucoup de monde quand même.
Marc Libra.
Oui, Marc Libra, ouais.
Marc, ouais.
Et donc, c'est devenu une tradition, chaque année, de faire ce genre de match.
Alors, c'est devenu une tradition...
Après, c'est peut-être plus compliqué de faire venir tout le monde chaque année.
Non, c'est facile à faire. C'est l'argent qu'il faut trouver.
Oui, c'est ça.
C'est facile à faire. Bah, t'es venu, t'as vu, je connais un petit peu de monde maintenant.
Bah, oui.
Je peux faire venir qui je veux. Le problème, c'est payer l'avion, l'hôtel,
Bah, oui.
Le restaurant, et savoir que la mairie ne donne plus un centime.
Ouais.
Donc c'est un peu plus compliqué maintenant. Parce que
les alors, c'est plus après, les c'est vrai que bon, les champions qui sont venus, ils sont du coin quand même. Bernard Lama.
Lama est venu avec. Oui. Avec
Steve Marley aussi, qui était du Red Star.
Steve Marley, oui. Steve Marley, c'est pareil, oui. Je le connais. Oui, oui, oui. Je le dis venir. Oui, oui. Non, mais il y a Valdo, il vient de Lisbonne,
oui,
à chaque
oui,
fois.
Oui, hein. Oui, oui, oui.
Jean-Pierre Paoli, il vient de oui. Corse. Oui,
ah, mais bon. Le populaire JPP.
Ouais. JPP, il ouais. Est là.
Bon, enfin, il a une maison dans la région parisienne, donc.
Oui, mais en général, il n'est pas là, hein, à cette époque-là. Oui, oui, oui. Il est au soleil, il a bien raison.
Oui, oui. Et puis, il y en a d'autres, quand même, qui étaient. Jean-Marc Mormec, par exemple, ou Pascal Gentil.
Jean-Marc
qui
Mormec,
sont aussi
j'ai la chance. Voilà. Pascal Gentil est de Fontenay, donc c'est facile.
Bah oui. Oui, parce que j'ai lu ça. Il est des sportifs de Fontenay-sous-Bois, quoi. Oui, oui.
Alors, quand il a commencé à être. Alors, Pascal Gentil, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire.
Non.
Il a commencé à être champion et le maire va le voir. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, il me faudrait un poste. Et c'est réel, hein?
Ouais,
un
ouais.
Poste.
Ouais, ouais.
Ok. Le maire va le voir quelques semaines après. Bon, c'est bon, je t'ai trouvé une place au service des sports. Ah non, mais je veux un poste en autoradio.
Ah.
Mais c'est réel. C'est
ah,
réel.
Ouais, c'est réel.
Tu peux lui demander quand tu vas le voir.
C'est réel. Je lui poserai la question parce que je l'ai rencontré cet été aux arènes de l'UTS et il est vraiment adorable.
Ah,
il est super. Et vraiment, c'est quelqu'un
d'exemplaire.
Ouais, oui, exactement. Oui. Et c'est ce que j'ai vraiment ressenti dans mes échanges avec lui.
Ouais.
C'était vraiment bien.
Oui, on a eu une chance de souvent le rencontrer, souvent l'interviewer, ça va être toujours très très disponible. Et puis, il y a d'autres sportifs peut-être qui ont été contactés, non, aussi? Non?
Pour le match?
Oui.
Bah moi, c'est Valdo après qui,
oui.
Qui connaît, qui a appelé Bernard Bramma, qui a rappelé, ouais. comment il s'appelle le petit arrière, là, qui était au PSG?
Dire que Valdo nous a fait rêver au Parc des Princes. Hein.
Bah, il vient de m'appeler.
Oui. Je sais qu'il arrive le 7 novembre.
Il arrive le 7, là, pour un gros gros match... J'ai la chance de participer, d'aller à ce match, je suis invité.
Oui, alors, William, justement, ça fait des relations avec ces gens-là.
Oui, je commence à connaître du monde.
Donc, ça peut aider pour votre association.
Oui, mais quand je vois les sportifs, quand je vais, un exemple, avec un espoir, un sourire pour la ville de Pascal Olmeta.
Oui,
donc avec,
c'est un pote à Jean-Pierre.
Voilà, c'est pour ça. Donc, quand je vois les sportifs, je connais Chabal, je connais plein de monde, Deschamps, toute la clique, je les connais tous.
Oui.
Et je leur demande pas mon association, je mélange pas tout. C'est là, je suis pour l'association Pascal.
Oui, d'accord. Mais oui. Non, mais un garçon comme Chabal, il pourrait venir un dimanche. Gentil. Oui, il pourrait venir un jour un dimanche. Non, mais c'est pour les enfants, quoi.
Ouais, mais ouais. Je connais William Servat.
Oui.
J'étais avec Fabien Pelouse chercher des chaussures en 44 à Décathlon à Nice, quand même.
Oui.
Il me dit William, tu connais Nice? Ouais, je connais un petit peu. Il me dit c'est pas où il y a un Décathlon? Viens, il y en a un par là. On arrive, tout le monde regarde. Chercher du 44, j'écoute, je suis trop petit, j'arrive pas à prendre les chaussures là-haut. Ouais. T'as tout le monde qui regarde et on s'est retrouvé à chercher des chaussures avec William Servat et.
Oui. Non, parce que bon, encore, des garçons comme Deschamps, bon, c'est des saisons qui sont complexes, c'est difficile. Oui, je sais bien, j'ai rencontré Claire Fontaine, ouais, je connais.
Cantona aussi, Cantona.
Oui, bah oui. Cantona,
c'est Fontenay.
Non,
il a vécu à Fontenay pendant 7-8 ans.
Ah, je savais pas.
À chaque semaine de mon travail.
Grande personnalité, puis le comédien.
Très gentil.
Ils sont aussi bons que le footballeur.
Très, ouais, très bon.
Ouais, c'est vrai. Hein.
Il buvait son café tous les matins au Café des Rosettes à Fontenay-sous-Bois.
D'accord.
Et il emmenait son fils à l'école juste au-dessus en vélo. Il prenait le sens interdit.
Ouais.
Quand je l'ai revu à Nice pour le match, là, j'ai dit, mais on se connaît. Il me dit, oui, ta tête me dit quelque chose. Je dis, bah oui, tu prenais le sens interdit en vélo avec ton gamin, tu le posais à l'école. Et puis, bon. Comme ça,
c'est
impressionnant quand même. Ouais, puis après, il parle, après, il se dit, hop, ça va, ouais, comment ça va, Emmanuel, comment il va? Je dis, Emmanuel va bien. Super gentil. Franchement.
Mais ces gens, un jour, s'il fallait les faire venir vraiment en s'y prenant un petit peu, ils pourraient le faire.
À mon avis, ils sont très, 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 très.
Oui, pris. Non, je sais bien. Je
Fabien,
sais bien.
Pareil, Fabien Barthez est super gentil, je le vois souvent. Mais. J'ai jamais osé leur demander en fait.
Oui.
Moi je vois par Valdo, j'en perds pas.
Oui. Non, mais c'est pour les enfants, c'est pas pour.
Ceux qui gèrent.
Oui, bien sûr.
Jamais osé leur parler.
Ouais. Donc tous les ans, il y a un match caritatif. Alors...
Bah là, il risque d'y en avoir un deuxième parce que j'ai les Black Stars qui m'ont appelé.
Oui.
D'Éric Fabre.
Oui. Je connais. J'ai fait une interview il y a très longtemps.
On doit se voir cette semaine parce qu'il veut que je fasse un match à Fontenay avec l'Espérance tunisienne contre les Black Stars.
D'accord.
Le 15 juin. Donc il veut qu'on prépare ça, il veut que je l'aide.
Oui, ça serait bien.
Qui sait que je connais un petit peu le quartier.
Bah, faudra nous l'emmener et puis on ira.
Ah bah oui.
On fera l'interview aussi. Ça t'inspire un commentaire?
Franchement, si on parle de l'association, moi je trouve ça vraiment super parce que comme vous avez dit, c'est vrai qu'il y a des zones où il y a des enfants qui peuvent pas partir en vacances et c'est sûr que moi j'en connais certains et je me mets à leur place et le fait de partir en vacances en colonie ou là en plus c'est dans le thème du foot etc, c'est quelque chose comme t'as dit, William, dès qu'il y a un City, ils sont contents.
C'est le plus heureux du monde.
Voilà. Et un City au soleil avec la plage pas très loin, c'est encore mieux. Voilà. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment super. Et après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que, bon, c'est difficile à demander, c'est sûr, c'est toujours compliqué, mais qu'il y ait des personnalités qui s'investissent peut-être un peu plus, et vu que ouais, maintenant c'est un peu dur d'obtenir des financements.
Bah, le problème, c'est qu'ils devaient hyper solliciter. Après, il faut qu'ils fassent des choix. Quoi.
Mais, c'est ça bah, aussi.
Bah, moi, déjà, j'ai la chance de connaître Jean-Pierre Paoli, bah, qui m'a fait présenter beaucoup de stars.
Bah, oui.
Et puis, j'ai la chance d'être un très, très bon ami à Valdo aussi.
Oui.
Puisqu'il vient chez moi, donc on discute beaucoup, on est très très souvent ensemble.
Bon, pour la prochaine fois, tu nous ramènes. Jean-Pierre, je connais, il est déjà venu.
Paldo, il arrive le 7, donc
bah oui, bien.
Après le 11, il est à Paris. Mm-hmm. Et après, on part à Angers directement pour le match avec Robert Gignot, justement. Tout ça.
Mais oui, c'est vrai que Fontenay, c'est très dynamique hein, comme ville au niveau des sports. Ouais. Moi, je connais bien parce que j'ai quand même une partie de ma famille là-bas et que j'ai quand même passé pas mal de temps.
Tu vois.
Et en fait, j'allais aussi m'entraîner partiellement à la patinoire là-bas. Donc, je connais bien cette ville et je sais qu'elle est très dynamique. Et je trouve ça admirable ce que vous faites parce que je sais que c'est pas facile. Et c'est super d'emmener ses enfants. Ça leur permet aussi de voir autre chose et peut-être de sortir de ce qu'ils ont l'habitude de voir et d'avoir peut-être d'autres perspectives aussi. Ça, je trouve ça super.
C'est pour ça que j'ai lancé ça.
Et tout à l'heure, quand vous avez dit qu'ils venaient tous vous voir, quelque part, ils vous respectent et c'est bien qu'ils aient un modèle comme ça. C'est important pour après leur trajectoire dans la vie, moi, je trouve, personnellement. Voilà.
Oui. Bah, j'essaye de reproduire ce que mon papa m'a appris, le respect des valeurs.
Et bah, c'est bien. C'est tellement rare,
pour
c'est tellement compliqué. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais vous avez d'autres actions en dehors de ces sorties, non ?
C'est il y a déjà pas beaucoup de boulot.
Oui, non, mais il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, des rencontres pour apprendre les langues, avec des fois...
Bah, avant les Jeux Olympiques, j'ai l'école où j'étais petit, qui est avec le directeur, c'est Momo. Il me dit, William, tu peux ramener une star, tu connais un peu de monde, Brahim Asloum, etc. Tu peux les rappeler si on ne peut pas faire un petit exposé sur les Jeux Olympiques, le midi.
Beaucoup l'ont fait.
Avec des enfants maternels.
Ouais, ouais.
J'appelle Pascal. Ouais. William, qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit, vas-y, je viens tout de suite. Et on a mangé avec les enfants, aller à l'école Henri Vallon, à Fontenay-sous-Bois, dans la pyramide. Les enfants étaient comme des fous, ils ont posé des questions.
Ah bah oui.
Monsieur, alors. En plus, il est très gentil, il a ramené les coupes, les médailles qu'il avait. Il a ramené les médailles officielles des Jeux Olympiques. Donc vraiment, Pascal, c'est une crème, c'est un frère, c'est un grand frère.
C'est
plus petit que moi. Enfin,
il est grand.
En âge.
Il est grand et il nous a fait un beau coup de pied là quand on était aux arènes de Lutèce.
Et ça, il le fait partout.
Ouais. C'est sa spécialité.
Donc, on prépare déjà l'édition 2025. Et donc, il y aura ce match là au mois de juin.
Alors, il y a, je dois voir avec les Black Stars, ils veulent que je les aide à organiser ça. Non, j'ai pas que ça l'année prochaine.
Vas-y, t'es là pour le
dernier week-end du mois de juin, comme d'habitude.
D'accord.
J'ai Tom Dantas, qui est le chanteur brésilien qui était au match,
qui a
chanté un petit peu, qui prépare un très gros événement aussi au stade de Saint-Ouen, donc c'est le stade Bauer.
Oui, c'est le stade Bauer, là où joue Black Star,
Voilà, ça, il prépare un très, très gros truc avec un festival brésilien plus un match. Mmh. Donc, normalement, je vais être un petit peu avec lui aussi. Puis, il a 80 ans à JP.
Tu peux nous en dire un petit peu, là. Il y a une grande fête qui se prépare.
Il y a une très, très grande fête qui se prépare.
Ouais.
Alors, il hésite encore, parce qu'il veut inviter Zidane, enfin, toute la clique. Bah, parce que lui, c'est genre le commentateur officiel du PSG de l'équipe de France. Donc, il veut faire un très, très gros truc. Donc, il est en train de réfléchir à ça.
D'accord. Et ça sera à peu près, il a à peu près la période dans l'idée,
ouais,
je sais pas.
Février, je pense.
Février de cette année. Ouais. Ah oui, donc ça va arriver bien. L'année prochaine de 2025, quoi.
Ouais.
Donc ça va arriver très vite. Hein. Ouais, ouais.
En train de regarder pour les loger.
Ouais. On a une petite idée du programme, non, de ce qui sera fait, non ?
Il hésite entre un match de foot et un tournoi de pétanque. Ah. C'est compliqué.
Oui.
C'est pas les mêmes.
On peut peut-être faire les deux, non ? On peut peut-être faire les deux, non ? Un match de foot. Ah, et
déjà,
puis...
quand il m'a dit tu vas être sur le terrain, tu vas jouer, j'ai dit quoi ? Il dit ouais, il y a Zidane. Ouais. Il dit non, moi je pourrais pas jouer. Je suis champion de ma rue, là tu me mets des mecs comme ça.
10 minutes avec Zidane.
Et
10 minutes avec Zidane, donc je me dis quand même, recevoir un ballon de Zidane quand même.
Hein ? Ah, c'est un autre monde. Ouais. C'est pas mon monde.
Oui, non, mais bon.
Ouais. Je reste à mon niveau.
Oui, non, mais bon, eux le savent aussi. Hein, donc ils sont
ils sont super gentils, en tout cas. Chaque fois, tous les ans, on fait il y a un gros match, je suis invité, j'ai la chance. Super gentil, je suis à l'hôtel avec eux, vraiment. J'ai emmené mon petit-fils l'année dernière. Ils sont tous venus faire des photos. Adorables.
D'accord.
Franchement,
Donc on peut peut-être, on ne sait jamais, lancer des petits appels s'il peut y avoir des bonnes mains.
En plus, on a un numéro
des,
d'agrément, donc des volontaires, on est déclaré en préfecture, c'est déductible des impôts.
Oui. Alors c'est pareil, vous avez un site internet pour votre association ou alors
un Facebook.
Oui, un Facebook. Ouais, on va rappeler le Facebook, vas-y.
Association SLD. Oui. William Bignon, et normalement ça sort.
D'accord, ok.
Et là, il y a la photo du match avec Ronaldinho et Sonny Anderson.
Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Et donc après, il contacte, et puis s'il peut y avoir des bonnes volontés, ou financières, ou même des bonnes mains. Et est-ce que tout le monde du sport joue le jeu à Fontenay dans votre journée? Non, pas trop. Non, mais il faut le dire.
J'ai plus le droit aux subventions.
Oui. Il n'y a aucune association sportive qui pourrait dire, tiens, on va quand même venir te donner main forte, t'aider.
Ils viendront m'aider. Mais c'est surtout les subventions qu'on a besoin. Parce que cette année, d'habitude, je fais le matin 80 enfants. Mm-hmm. Je vais retourner avec 80 enfants de 11 ans. Mm-hmm. Donc après, on leur offre maillot, short, chaussettes, hein, bien sûr. Vous regardez sur le site OM Star Club, le site la télé, on est en vidéo et tout. Donc on leur offre maillot, short, chaussettes, on leur offre le repas le midi. Plus des petits lots, meilleur jongleur, meilleur pénalty, des bêtises. Ouais. Mm-hmm. Et après, il y a un match de maman féminine qui joue en levée de rideau.
Ah, sympa, ça.
Donc j'ai 40 mamans. Pareil, on leur offre maillot, short, chaussettes. L'année dernière, il y a 2 ans, ils sont venus de Meaux, ils étaient en basket, ils avaient jamais foutu de leur vie. Mais bon, c'était histoire de dire, là, on est là.
Puis comme ça, les petits voient leur maman jouer.
Mais c'est vrai, c'est ça, complètement.
Maman joue.
Et après, il y a le match d'ancien. Mais comme cette année, j'ai plus de subvention.
Alors, il y avait des féminines aussi, mais il a fallu.
Cette année, c'était compliqué.
Oui, je me rappelle, il y a eu
des pas pu offrir les maillots
du Paris FC, je crois.
PFC, il y a les filles du PFC qui jouent bien. Très bien.
Du PFC.
Très bon niveau.
Très, très bon niveau. Et le coach, super adorable. On a réussi à se débrouiller. En fait, ils ont joué le tournoi avec nous, avec Valdo, t'as vu. Mais on n'a pas pu offrir les maillots. J'ai dit, vous venez, mais je ne peux pas vous offrir le maillot cette année. J'ai pas d'argent. J'ai fait un crédit de 4 000 euros personnel.
Ces subventions, pourquoi elles ont été coupées ou réduites, peut-être, coupées carrément, si je peux me permettre.
Avec le maire quand je le verrai en face.
Voilà. Est-ce qu'ils estiment que le match, il ne fait pas partie de nos prérogations
La personne m'a dit exactement, c'est un match d'anciens, ça m'embête de donner de l'argent pour un match d'anciens.
Voilà.
Je lui ai dit, madame, avant j'ai des enfants et après j'ai des mamans.
Mais c'est une cause pour les jeunes quand même. C'est des anciens, mais
surtout
c'est.
Surtout que le matin, il y a les jeunes qui jouent.
Oui, c'est ça, c'est quand même une cause pour les jeunes.
Et on leur offre maillot, chaussettes.
Les petits qu'on a parlé tout à l'heure qui jouent en Angleterre, ils ont joué ce tournoi. Mm-hmm. Ils ont fait tous les petits pros qui sont de Fontenay, ils ont fait ce tournoi.
Mm-hmm. Bien sûr. Alors naturellement, je suppose qu'il y a des jeunes qui viennent vous remercier après, plus tard.
Bah, tout le temps.
Ça, c'est une belle satisfaction quand même, 10 ans après. Merci William.
Ils sont reconnaissants.
Oui.
C'est ça la vraie satisfaction, finalement, quand même. C'est ça que vous recherchez. Le fait de donner du rêve quand même à des enfants et qu'après ils soient reconnaissants, ils viennent vous remercier, etc.
C'est ça.
Parce que les souvenirs, ça ne s'achète pas. Donc c'est ça qui est beau.
Quand je les vois, ça me fait des frissons et je n'ai pas les larmes aux yeux à ce point-là, mais ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Mm-hmm. Là, quand. Ah non, c'était l'année dernière. L'année dernière, il y a Laurent Cousin, qui est, comment il s'appelle Lolo Lapoussin, qui est venu, qui joue en Angleterre.
En
Belgique, et qui a fait la Cannes. Mm-hmm. Il y a Sirenet, qui a fait la Cannes aussi. Ils sont venus tous me voir pour faire la bise. Et puis on a fait des photos. On a fait les photos quand il était petit, il avait 10 ans. Et maintenant, qui fait 1m95, je crois. Et c'est un super souvenir. Donc j'ai réussi à mettre les deux photos côte à côte avec Momo au milieu.
Ouais.
Le directeur d'Henri Vallon de l'école. Super souvenir.
C'est des belles satisfactions.
Mais ils sont beaucoup, beaucoup demandés.
C'est ça le problème. Parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a beaucoup d'associations qui essayent quand même de faire certaines choses pour justement les personnes défavorisées à travers le sport. Parce que c'est la meilleure caisse de résonance. On le voit un peu partout. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être partout. C'est ça la difficulté.
Moi, il y a des autres associations qui me demandent des coups de main.
Comme de Cordée, premier Cordée, par exemple.
Ouais.
Avec Mbappé, c'est difficile.
Premier de cordée dont la présidente est Nathalie Péchalas, d'ailleurs.
Oui. Mm-hmm. Donc c'est difficile.
Une association, c'est compliqué à gérer.
Déjà, ce qu'on fait avancer, on peut.
Moi, à mon petit niveau, j'essaye de faire ce que je peux, Que je peux. Et le regard des enfants,
c'est ça qui est important.
Bien sûr. Quand on a un, je vous dis, l'année dernière, il se lave avec son caleçon. Mais pourquoi tu te laves avec ton caleçon? Parce que j'ai que deux caleçons chez moi. Je suis obligé de le laver pour le lendemain, mettre un propre. Et quand on arrive au karting, il y en a qui n'ont pas d'argent.
Bien sûr.
Le karting, c'est payant, ça sert à pas. On peut pas l'obliger aux enfants. Mm-hmm. Parce que c'est, faut avoir un âge, une taille minimum. Mm-hmm. Et nous, on paye moins cher par rapport aux autres, parce que je connais le président maintenant, enfin, le propriétaire, mm-hmm. qui a fait Rallye Dakar, donc je le connais un petit peu. Donc on paye beaucoup moins cher, mais il y en a toujours 5-6 qui n'ont pas les 17 euros pour payer le karting.
Donc on les rajoute généralement.
Donc on dit, bon allez, vas-y, on leur paye nous, parce qu'on ne va pas les laisser tout seuls là. Mm-hmm. Donc en général, tout le monde en fait.
Toute la frustration. Voilà.
À part le manège, ça, on ne gère pas, ils se débrouillent. Mm-hmm. On les pose à l'entrée, bah, allez, vous avez 2 heures de quartier libre, faites votre vie. Mm-hmm. Et c'est bien, la toile de la foot, parce que c'est un rond, mais ils ne peuvent pas aller droit loin. Quoi. Et on n'a jamais eu de soucis, jamais.
Et ça, c'est vraiment bien souligné, le fait qu'il n'y ait eu aucun débordement,
jamais. Alors
c'est,
là, non.
C'est censé faire réagir certaines personnes, quand même.
Les jaloux, ceux qui parlent beaucoup aussi, il y en a plein qui parlent beaucoup. Ouais,
on souhaiterait que ça bouge un peu plus.
Ouais, voilà. Mais après, il y a le respect. Si tu leur montres que tu les respectes, il faut qu'ils te respectent. Après, il n'y a pas de soucis.
Alors, bon, on va pas... La politique, comment ça se passe? Les politiques, ils poussent pas?
Non.
Aucun?
Non.
Oh, aucun?
Non, si, alors. Non, mec est venu, ils ont fait une photo avec mon mec, ils sont partis, ils n'ont même pas dit merci à... Je ne veux pas mon nom.
Faire valoir, on appelle ça.
Merci à l'association d'avoir fait venir mon mec, quand même, quelques fois champion du monde. Ouais. C'est le seul en France.
Mmh. Ben oui, bien sûr.
Donc ils viennent, ils font une photo, ils s'en vont. Bah, merci William, quand même, c'est la moindre des choses. Quoi. Ils ont été voir Valdo ou Jean-Pierre. Mmh. Merci d'être venu. Non, c'est pas à moi qu'il faut dire merci, c'est à William.
Bien sûr.
On vient pour William.
Bien sûr.
Donc je vous ramène quand même des gens très connus. Ouais. Valdo, 3 Coupes du Monde, c'est ça? Bernard Lama, champion du monde, tout. Même pas un merci. Enfin, moi, je ne donne pas d'argent, je gère, je me débrouille. Mm-hmm. On ne partira pas avec notre argent au ciel. Hein.
Bien sûr.
Au moins une poignée de main. Merci, William. Merci. Mm-hmm. Tout ce que je veux.
Bien sûr. Et surtout pour les enfants.
Quoi. Ils le font même pas.
Ouais. Bah,
ça veut tout dire.
Eh oui, c'est ça le problème. Allez, on écoute la deuxième pause musicale et ensuite, on va appeler notre ami Stéphane Desenclos pour le point foot où, naturellement, vous interviendrez. Il y aura beaucoup de choses aussi à raconter avec cette semaine foot. La musique auparavant.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. C'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance. Et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays. Grâce à eux je sais qui je suis. C'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie le jour de la kermesse,
une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les cons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond.
Allez, 20h11, on va naturellement commenter l'actu foot avec mon ami Stéphane. On me fera signe quand il sera prêt. C'est bon ? Ok, on a Stéphane. Salut Stéphane.
Oui, salut Philippe. Ouais. Bonjour à toutes et à tous.
Bon, on a... T'as le bonjour de notre ami Valdo, voilà, qu'on a eu l'occasion. Ah. Voilà, c'est tout, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et puis, on va quand même avoir une pensée avant tout pour les 40 ans de Canal+. Hein. Stéphane, on est une génération qui avons connu Canal+, nous, et puis le début.
Ouais,
une énorme pensée donc pour cette télé qui a révolutionné et la télé d'une façon générale, et aussi surtout les matchs de foot et puis les commentaires sportifs.
Ouais, tout à fait. Bah, Canal, c'est bien sûr les matchs de c'est les, voilà exactement, c'est les commentaires sportifs qui étaient exceptionnels avec notamment un trio Vietri, Denisot, Gilardi au départ hein, et qui a apporté un souffle nouveau, un autre regard sur les matchs de foot. C'est vrai que c'était on va dire c'était la bonne époque, mais bon aussi il y a pas que le foot et le sport, ils ont aussi la première matinale de l'histoire de la télévision par exemple, c'était sur Canal+, hein, présenté par Michel Denisot, qui était assez hétéroclite comme personnage, quoi qu'il l'est d'ailleurs toujours. Et donc non, c'est vrai que c'est une grande aventure qui a maintenant 40 ans.
Oui, qui se poursuit de façon un peu différente maintenant. Hein. Et comme disait Michel Denisot ce matin dans une interview, j'ai trouvé ça très bien, il disait qu'à l'époque, les trois mots d'or, c'était travail, rire et liberté. Voilà, ça symbolise l'époque. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment intéressant de le mot à l'époque. Il est vraiment très fort parce que je travaillais aujourd'hui sur un article sur le site du quotidien du sport, c'est les 8 historiques qui ont fait la chaîne cryptée sur et le foot, quoi, la relation entre la chaîne cryptée et le foot. Je mettais dedans Stéphane Guy, notamment, oui. qui est quand même l'inventeur du 5 minutes de bonheur en plus, quoi. Donc c'est assez exceptionnel, qui a quand même été licencié pour avoir soutenu un humoriste. Donc il y a aussi quand même une période, à une époque qui a un peu évolué, avec le rachat par Bolloré, le groupe Canal et tout. Donc ça a changé. Bon, de toute façon, l'époque a changé, quoi. Mmh.
Voilà, allez, on va parler du Ballon d'Or. Alors, je vais demander donc à Alexandre de nous rappeler les lauréats de toutes les catégories du Ballon d'Or 2024. Alexandre.
On garde le meilleur pour la fin.
Oui.
Mais on commence par le Ballon d'Or féminin.
Oui.
Aitana Bonmati, son deuxième d'affilée. Mm-hmm. Le FC Barcelone qui fait comme les hommes en 2010 en alignant trois joueuses du club sur le podium. Donc, c'est
ça me paraît logique sur l'ensemble de la saison. Hein.
Oui, forcément, puisque meilleure équipe féminine, justement, le FC Barcelone qui a remporté la Ligue des Champions. Trophée Copa, meilleur jeune, Lamine Yamal.
Là aussi logique.
Totalement logique et mérité. Domination barcelonaise encore après Pedri en 2021 et Gavi en 2022. Donc, meilleur gardien. Là, ça ne va pas faire plaisir à tous les Français, puisque c'est Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa et l'Argentin, très chambreur, qui a remporté.
Très bon gardien pour autant. Hein,
très bon gardien pour autant. Il n'y a pas de scandale non plus, comme j'ai pu le voir sur les réseaux. Meilleur entraîneur, Carlo Ancelotti.
Oui.
Ça aurait pu être Xabi Alonso.
Oui, Mais moi, j'avais voté pour Ancelotti, malgré tout.
Ah, ouais. Surprenant.
Pour l'ensemble de son œuvre, voilà.
Ok, meilleure équipe, le Real Madrid, ça ne choquera personne non plus. Et enfin, Ballon d'Or, Rodri. Donc là, ça a été assez controversé.
Oui. Donc devant
Devant Vinicius Junior.
Oui, Bellingham 3e.
Et Bellingham 3e.
Ouais. Et Carvajal 4e.
Carvajal 4e. Ouais, Mbappé 6e.
Oui, voilà. Stéphane, on en a parlé la semaine dernière, même si on ne connaissait pas encore le résultat. Bon, ça a été un Ballon d'Or au rabais cette année. Hein. Voilà,
Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que le terme au rabais était un petit peu dur, quoi. Mais c'est vrai que dans la noblesse du terme, c'est vrai que je suis quelque part assez pas fier, mais c'est vrai que même avant on disait ça, donc fallait qu'il y ait quelque chose de spécial, quoi. Comme de toute façon, dans la catégorie buteur, joueur offensif, joueur spectaculaire, joueur déterminant, joueur impactant, il n'y avait pas vraiment de joueur au-dessus des autres. Et ben la décision, finalement, tout le monde a un peu pensé, beaucoup ont eu le même cheminement de pensée en donnant les honneurs à un joueur, un fin tacticien, un maître du jeu, un joueur qui a une grande, qui est effectivement pas dans le concept habituel du Ballon d'Or, quoi. C'est quelque chose de très rare, mais c'était peut-être aussi l'année ou jamais pour faire ça. J'ai, comme je le disais, je le répète ici, pour moi, la saison d'Antoine Griezmann en 2018, par exemple, méritait plus un Ballon d'Or que ne l'aurait mérité aujourd'hui Vinicius, quoi. C'est tout. Maintenant, ça n'empêche pas que c'est un très très grand joueur et qu'il l'aura, j'espère pour lui, qu'il l'aura dans les années à venir.
Oui, et puis nous les anciens, on se rappelle qu'il y a eu quelques années les Ballons d'Or, c'était aussi très serré, hein. Je me rappelle de Ballon d'Or de Nedved ou bien Sommer, c'était pas évident non
oui.
plus.
Ben, hein, tout à fait, bien voilà. sûr. Et puis les gens qui sont peut-être plus jeunes aujourd'hui, il y en a eu beaucoup sur certains réseaux, bien sûr, sur les réseaux en général, sociaux, sur les différents groupes, au sein de plein de choses. Ils comprennent pas bien aussi les tenants et les aboutissants. Oui. C'est-à-dire que en fait,
il y a des critères
déjà
bien
le fait qu'il y ait eu deux joueurs, voire trois, hein, si on y ajoute Carvajal, mais on va dire deux joueurs majeurs pour lutter pour le titre, qui était Vinicius et Bellingham, ça a empêché complètement le Real Madrid de faire. Moi, j'ai mon explication. Je vis rapidement sur la soirée. Ça a empêché le Real Madrid de prendre parti pour l'un ou l'autre, parce qu'ils n'allaient pas prendre parti pour l'un ou l'autre et faire campagne pour un des deux joueurs. Ça a empêché, peut-être l'Espagne n'a pas voulu faire campagne pour Vinicius. Donc ça, les votes, ils sont forcément un petit peu partagés un peu partout. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que une fois que la sentence était tombée et que c'était pas Vinicius qui avait le Ballon d'Or, le Real Madrid qui a quand même sous le nez la possibilité d'un départ de Vinicius pour l'Arabie Saoudite l'été prochain, a voulu aussi manifester tout son soutien envers le joueur. Donc c'est pour ça après qu'ils ont un petit peu disjoncté, quoi.
Ben c'est pas très beau quand même, hein. C'est pas à l'image du club, hein, quand même, hein. C'est pas
là,
beau.
Vous avez le pire de contestataire de ce genre de choses. Je trouve que c'est honteux.
Ouais, c'est pas beau.
D'ailleurs tout
c'est
le monde
bien.
A vu comment ça, Pep Guardiola qui a fait une sortie en disant qu'il fallait y aller. Bon, et ce qui est énorme, quand vous voyez un joueur comme Cubarsí par exemple, le défenseur de Barcelone, qui a été interrogé, qui a simplement dit bon, ils ont peut-être leur raison, s'ils voulaient pas venir, faut respecter ça et tout, pas du tout dans la polémique et tout. Et c'est un peu incroyable de réagir comme ça.
Tiens, je voudrais demander à mes invités, William, oui. le Ballon d'Or, ça t'a plu, ça t'interpelle, quelque chose, non?
Franchement?
Oui. Tu t'en fous?
Ouais.
Oui, oui.
J'ai pas regardé.
D'accord. Non, mais tu peux ne pas regarder. Mais moi, Rodri, c'est pas à la fois injuste non plus, tout en étant voilà.
Je regarde plus beaucoup le foot.
Ah bon?
Non.
Paradoxalement.
Ouais, non, non. Ouais, ah je suis passionné, mais j'aurais plus comme avant. C'est plus les mêmes. Ça a trop changé.
Ah d'accord. Pascal.
Bah, je pense que Rodri fait une très très grosse saison quand même. Ouais. Et que c'est pas démérité. Après, Vinicius est un joueur spectaculaire, mais après, il paye peut-être aussi son caractère, sa provocation. Mm-hmm. Un joueur plus poli, Rodri, ça passe mieux.
Mm-hmm. Très bien. Bon, Stéphane, on parle donc de la 10e journée de championnat où Paris fait encore la bonne affaire, hein, malgré sa courte victoire devant Lens 1-0. Paris qui a profité de la défaite de Monaco. Ça ne va pas très bien, Monaco, depuis quelques temps. Battu à domicile par Angers 1-0. Nul entre Lille et Lyon, un partout. Victoire de Nice à Brest 1-0. Saint-Etienne va un peu mieux. Ils ont battu Strasbourg 2-0. Toulouse qui bat Reims 1-0. Reims aussi, y a quelques matchs un petit peu compliqués depuis quelques semaines. Carton de Auxerre qui va probablement donc définitivement donc condamné Stéphane à Rennes 4-0 pour Auxerre, Le Havre qui bat Montpellier 1-0 et puis Marseille qui est allé gagner donc à Nantes 2-1. Donc le PSG est en tête avec 26 points devant Marseille, Monaco 20 points, 4e Lille 18 points en bas de tableau, donc ça se corse un peu puisque Rennes est 13e avec 11 points, 14e donc Nantes, Angers, Saint-Etienne 10 points, on voit que c'est toujours aussi serré, 17e Le Havre 9 points et il y a Montpellier qui est bien décroché 18e avec 4 points. Paris, donc, qui fait le trou maintenant ?
Bah oui, Paris qui fait le trou. Et la meilleure réponse, le meilleur commentaire a été celui de Luis Enrique en conférence de presse après la victoire contre Lens, qui a dit j'ai entendu, je ne regarde pas bien la presse, mais j'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'on n'était plus, qu'on n'était pas la meilleure équipe du championnat. Donc, je suis content aujourd'hui de voir qu'on donne tort à ces rumeurs, à toutes ces rumeurs et qui sont toutes contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est vrai qu'on est à 10 matchs quand même, 10 matchs, déjà 6 points d'écart. C'est déjà beaucoup quand même, des 6 points. C'est une des 3-4 équipes qui a vaincu encore en Europe. Donc, c'est quand même meilleure attaque, pratiquement la meilleure défense. Donc, bien, même si. On n'est pas tout le temps enchanté, notamment ce match, par exemple, PSG-Lens, c'était pas un sommet de football, quoi. Mais bon, donc ils continuent tranquillement leur petit bonhomme de chemin. Et puis voilà, quoi. Maintenant, ça nous promet quand même, je pense, une trêve là, internationale là, qui va arriver.
Il y a encore une journée de championnat. Il y a encore une journée de championnat. Et après, c'est la trêve.
Prochain, justement, cette journée de championnat va. Est-ce que cette journée de championnat peut changer certaines choses? Mais ça nous annonce quand même une trêve très, très animée. Je pense à des clubs comme Nantes, Rennes, bien sûr. Selon mes informations, c'est fini pour Julien Stéphan. Donc,
oui, c'est Julien Stéphan.
Il tarde à l'annoncer parce qu'ils veulent trouver le successeur et ils ne savent pas encore si ça
sera. On parlait de Garcia.
Ouais, on parle de Garcia. C'est vrai que Garcia est en pole position, la famille Pinot veut absolument un coach francophone. Maintenant, on a Patrick Vieira qui est aussi dans les bons papiers. Ouais. Garcia qui est proche de Massara, surtout le directeur sportif de Rennes. Et puis on parle aussi de Kovacs, l'ancien entraîneur de Monaco.
Je crois
maîtrise quand même assez bien le français, mais qui est vraiment un outsider. Donc je vois bien effectivement Rudy Garcia débarquer à Rennes, mais Nantes, Rennes, ça, il va y avoir du mouvement. Je pense qu'il va y avoir du mouvement, à moins que les deux équipes ne bougent pas et gagnent 5-0 en faisant le spectacle le prochain match, ce qui m'étonnerait un petit peu. S'ils vont jusqu'au prochain match, à mon avis, ça risque de ne pas aller beaucoup plus loin.
Ouais. Non, je pense que c'est fini pour Julien Stéphan. Allez, en Ligue 2, il y avait deux journées. Il y avait une journée, donc, cette semaine, c'était mardi, la 11e, et puis la 12e ce week-end. Très brièvement, on va dire que le Paris FC est allé faire 0-0 à Amiens. Il y a eu la victoire de Lorient devant Dunkerque 4-2, et celle du Red Star devant Metz 1-0. Le Red Star de Steve Marley. Aussi, hein. Ouais. Et puis, ce week-end, il y a eu un match très spectaculaire entre le Paris FC et Rodez, match nul 3-3. Victoire de Clermont devant Lorient 2-1. Le Red Star qui va gagner à Martigues 1-0. Caen qui bat Bastia 2-0 dans le match des mal classés. Et ce soir, donc, on a Ajaccio-Metz à partir de 20h45. Là aussi, les clubs parisiens sont en tête. Le Paris FC avec une petite marge d'un match, 26 points. Devant Lorient, deuxième, 23 points. Troisième, Annecy, Dunkerque, 22 points. Et en bas de tableau, donc, il y a 13e Caen et les Red Stars 14 points, 15e Rodez 12 points, 16e Ajaccio et 3 11 points. Ça va un peu mieux pour 3 quand même depuis quelques matchs. Et 18e Martigues 8 points.
Ouais, tout à fait. Ce qu'on peut quand même dire pour la Ligue 2, c'est que ça avance tout doucement en tête, hein, parce que le Paris FC, c'est 2 points en 2 matchs. Lorient, je crois que c'est un point en deux matchs.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a eu la Rodez, une défaite, là, une défaite dans ces deux matchs-là. Puis derrière, il y a des équipes comme Dunkerque qu'on profite. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont gagné leurs deux matchs ou s'ils ont pris quatre points. Il y a Annecy qui est assez étonnant. Il y a pas mal de surprises parce que les gros ont un peu de retard à l'allumage. Notamment, je pense par exemple à Guingamp. Moi, je crois beaucoup en Guingamp cette saison, entraîné par Sylvain Ripoll. Et Guingamp vient de gagner deux matchs de suite. Ils doivent remonter peut-être à la huitième place ou à quelque chose comme ça. Mais ils étaient mal, ils étaient pas très bien avant cette semaine, justement. Cette semaine, je crois, à deux victoires. Comme Caen, c'est un peu l'énigme Caen, donc de championnat. Donc ça va tout doucement en tête, ce qui permet pour l'instant à des clubs surprises comme Annecy et Dunkerque, notamment, d'être dans le top 5. Quoi.
Enfin, pour l'instant, le Paris FC tient et ne faillit pas.
Le Paris FC, on en parlait la semaine dernière. Ouais. Avant 3, je disais, pour moi, ce ne sera pas un match piège. Bon, ce qui s'est passé, ils ont gagné 3-1. C'est quand même au-dessus parce que Rodez, j'ai regardé le match de Rodez, par exemple, ce week-end. Ils font un très bon match. Ils ont franchement une équipe pour être beaucoup mieux que là où ils sont, mais ils ont aussi quand même, ils ont quand même eu chaud, quoi. Là, c'est, même s'ils ont mené, 2-1 à un moment donné. Mais bon, ils ont quand même eu de la réussite, quoi.
Allez, le National, 11e journée. Alors, le Paris Atlético est allé faire nul à Châteauroux 1-1. Ça change rien pour ces deux dernières équipes du championnat. Et Versailles est allé gagner à Villefranche-en-Bas. Il est allé gagner donc 3-1. Versailles est allé gagner 3-1 à Villefranche en Beaujolais. Donc pour l'instant, le Paris Atlético est avant-dernier avec Châteauroux, mais devançant donc Châteauroux au Golavrage. Un petit mot sur les féminines, où l'équipe de France a été battue par la Suisse 2-1 en match de préparation pour l'Euro. Et il y avait le match phare concernant donc le championnat. C'est Lyon qui a battu le PSG 1-0. Nul entre Nantes et le Paris FC 0-0. Et Fleury qui bat Reims 4-1. Donc Lyon qui reprend la tête avec 16 points devant Paris Saint-Germain 15 points, deuxième. Troisième, le PFC Dijon 11 points. Et cinquième, donc trois équipes, Fleury, Montpellier et Nantes avec 10 points.
Voilà, avec la surprise, bien sûr, c'est Dijon quand même, de retrouver Dijon... Dijon, là, c'est assez surprenant. Maintenant, Lyon, il n'y a aucune surprise. Hein. En plus, le Paris Saint-Germain était assez diminué. Je suis même un peu surpris du score. Il était quand même un peu assez diminué hier soir. C'était hier soir, non, ou samedi soir, je crois, je ne sais plus quand. Ou après, hier après-midi, était assez diminué, avec notamment la meilleure joueuse, une des meilleures joueuses de Ligue 2 de D1, Katoto, qui était sur le banc, parce qu'elle revient de blessure. Et puis, c'est pour moi celle qui était la meilleure joueuse de l'année dernière, qui reste, je pense, la meilleure. Shawinga qui a marqué, Dani, quoi, toutes les meilleures joueuses du Paris Saint-Germain, quasiment. Et la gardienne, c'était il y a 2 ans, elle joue à Lyon aujourd'hui, quoi. Donc, Lyon, Paris Saint-Germain, il faudra vraiment un petit miracle, à mon avis, pour qu'ils arrivent à prendre le titre. Mais bon, ils sont à un point, ils ont fait un bon match hier, ils perdent que 1-0, et même s'ils ont été archi-dominés, et qui sait, avant le match retour, ce qui peut se passer. En tout cas, le trou est fait avec les autres derrière.
Très bien, merci Stéphane, en tout cas. Alors, pas rendez-vous la semaine prochaine, c'est lundi de repos, hein, mais c'est jour férié, on se retrouve dans 15 jours, on aura l'actu foot avec la semaine internationale, et puis les Coupes d'Europe à commenter, ok?
Tout à fait. Bonne merci. Soirée à toutes et à tous. Hein, et puis, à dans 15 jours.
Très bien. Merci,
bonne
Stéphane.
Soirée. Bonne soirée.
Voilà.
Bonne soirée.
Voilà. Et puis, je voulais vous dire, il n'y a pas au bout du foot ce soir. Donc, on retrouvera l'émission de El Hadji et de toute son équipe dans 15 jours. Immense merci. Juste un petit mot de fin avant de rendre l'antenne.
Merci William. À vous et j'espère que vous allez continuer très longtemps.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Merci. Hein,
merci. Et je vous invite au prochain match.
Bah oui, bon,
avec grand plaisir.
Allez,
plaisir.
Bonne soirée à toutes et à tous. Merci en tout cas donc à notre ami Jason d'avoir été ce soir une nouvelle fois aux manettes. Il n'y a pas au bout du foot, on vous l'a dit. Et puis on vous laisse. Tiens, on va finir avec Claude François. Hein, vous connaissez, ça sera un petit symbole pour l'ami Jean-Pierre Pauly. Et c'est pour ça. Hein. Allez Claude François, belle soirée à toutes et à tous et à dans 15 jours. Salut.
Bonne soirée.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale. pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Tu es à l'autre bout de cette vie, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. Le lundi au soleil, simplement ne rien faire.